Les rendez-vous de la PES.
Tous les premiers mardis du mois à 19h.
L'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne.
Les rendez-vous de la PES.
Bonjour, bienvenue à notre nouvelle émission Les rendez-vous de la PES. Aujourd'hui, je suis Jenna Perka, salariée de l'association pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. Je suis avec ma collègue Anne-Lise. Bonjour Anne-Lise.
Bonjour Jenna.
Aujourd'hui, nous avons choisi de parler du monde du handicap. Nous avons, au niveau de la Mayenne, beaucoup de structures qui accompagnent des personnes en situation de handicap dans le milieu de travail, mais pas que. Mais nous avons souhaité d'inviter le directeur d'une structure qui s'appelle La Belle Ouvrage. Bonjour, Monsieur Mattei.
Bonjour Janina, bonjour Lise.
Bonjour.
Merci de passer une heure avec nous et de nous partager votre quotidien au sein de cette belle structure. On est allé voir un petit peu les activités que vous développez et puis s'intéresser un petit peu plus au secteur du handicap qui, bon, avouons-le, on n'est pas beaucoup en lien, on ne travaille pas beaucoup avec... avec les structures, mais bon, il y a un début pour tout. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, on a souhaité de vous parler un petit peu du handicap, de comment il a été pris en charge dès l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, pour contextualiser un petit peu le sujet, et puis après, on va donner la parole à M. Mattei. Donc, dès l'Antiquité, les personnes handicapées, en fait, elles étaient considérées comme des impures ou victimes d'une malédiction divine, ce qui fait que, bah, il y avait des enfants qui étaient tués dès la naissance, ou il arrivait qu'ils étaient utilisés par des mendiants pour mieux attirer la compassion. Au Moyen-Âge, le handicap et la situation de cette catégorie de la population suscitent la peur. Et donc, c'est pourquoi la société répond au besoin de s'occuper de la différence par l'enfermement. Donc, Louis XIV est un des pionniers de cette démarche en ordonnant la création de l'hôpital de la Salpêtrière pour renfermer des mendiants, mais aussi voilà, des personnes, des invalides, âgés ou des soldats invalides. On arrive au temps moderne, donc au XVIIIe siècle, qui est le siècle voilà, qui prône la raison, la science et le respect de l'humanité. Et on identifie des personnalités précurseurs des nouvelles idées sur le handicap. Donc, parmi eux, on va citer Diderot, voilà, qui publia des essais cherchant à démontrer l'égalité des esprits pourvu qu'on leur consacre suffisamment d'instruction et d'éducation. L'abbé de l'Épée, voilà, qui fonda une école pour les sourds-muets et inventa des signes méthodiques pour leur permettre de communiquer. Valentin Ahuy, qui fonda l'institution des jeunes aveugles et inventa des caractères en relief pour leur ouvrir l'accès à la lecture. Et puis Philippe Pinel, qui inventa la psychiatrie et des traitements doux pour remédier aux violences dont les personnes déséquilibrées étaient victimes. Voilà, on remarque quand même, voilà, une prise en compte de handicap et un accompagnement par l'instruction et par l'éducation. À partir du 19e siècle, il y a des lois concernant le handicap, voilà, qui vont apparaître, et des associations qui se créent au niveau national. Donc, je vais citer quelques lois. La première, c'est celle de 1998, hein, sur la responsabilité de la collectivité, les lois Ferry, qui donnent la place dans la société, hein, et puis dans le monde du travail et de la scolarité aux infirmes. Une autre loi est celle de 1905, assistance aux vieillards infirmes et incurables. Et puis, le grand dispositif législatif sur le handicap en France date réellement de 1975. avec la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. Après, il y a une autre loi, 1987, qui instaure l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Un taux légal d'emploi de 6% est imposé. Et puis, la loi de 2005 qui va améliorer, une loi qui fait son apparition toujours pour améliorer la prise en charge du handicap et une reconnaissance d'envergure nationale. Pour citer les associations, les grands réseaux qui ont été créés pour représenter les personnes handicapées, donc on va citer la Fédération nationale des accidents du travail et des handicapés qui a été créée en 1921. Ensuite, en 1933, l'APF, Association des paralysés de France, l'Association d'entraide des poilus handicapés, vous voyez donc par… j'ai envie de dire par catégorie, je ne sais pas si je… Voilà, je m'exprime bien, mais… après, il y a une autre association, l'Union nationale des parents d'enfants inadaptés, qui naît en 1960. Il y a une prise en charge aussi au niveau du handicap, et voilà, je vais finir avec ça. Au niveau international, donc il y a la Déclaration des droits des personnes handicapées adoptée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Une charte européenne du Conseil de l'Europe engage les États membres à prendre les mesures nécessaires en vue de garantir aux personnes handicapées l'exercice du droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie communautaire. Et en 2006, adoption d'une nouvelle convention sur les droits des personnes handicapées par l'Organisation des Nations Unies. Voilà, donc il y a une dimension aussi internationale qui permet une unification des lois et un développement des mesures pour le monde du handicap. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup, il y a eu quand même une évolution, une progression de la prise en charge ou en compte du monde du handicap. Monsieur Mathieu, est-ce qu'il y a encore de la place est-ce qu'il y a encore de la place pour faire évoluer la prise en charge du monde handicap, que ce soit du point de vue social ou politique, ou aujourd'hui on est plutôt sur une consolidation de ce qui existe et puis améliorer les différentes conditions.
Vous avez effectivement bien résumé toute l'histoire. Je pense qu'il y a toujours à faire. On peut toujours effectivement avancer sur plus globalement la question de la prise en charge de la différence du plus vulnérable, hein. Sachant qu'on a quand même sur un mouvement depuis 2005 et un mouvement sur, on va dire, qui voit le handicap et ce qu'il y a à mettre en place comme une compensation pour permettre à la personne handicapée d'être un citoyen ordinaire comme tout le monde. Je crois que c'est ça qui est important, c'est considérer la personne avec des droits au même titre que tout un chacun. Et donc, on est sur ce mouvement, effectivement, de compensation et d'inclusion, leur permettre l'accès aux droits communs, leur permettre, effectivement, de pouvoir avoir une vie comme chacun pourrait estimer à y avoir droit. Donc, oui, je pense qu'il y a toujours à faire, et notamment aussi sur l'évolution du regard de la société, hein.
Oui, comment le handicap est-il perçu aujourd'hui? On va détailler un petit peu plus ce que la Belle Ouvrage propose en termes de services ou d'activités. Mais comment vos partenaires, le public, appréhendent le handicap?
Alors déjà, le handicap, c'est une grande notion en fait. Hein. C'est un grand mot dans lequel on met plein de visages différents. Parce qu'on peut aller effectivement alors du handicap visible, hein, qui va être le handicap plutôt moteur, la personne en fauteuil roulant, mais qui va avoir pour le coup toutes ses capacités psychiques ou on va dire de raisonnement. On va avoir le handicap sensoriel, la personne qui va être en phase de surdité ou de mutité, ou effectivement les personnes aveugles. Après, on va avoir un handicap un peu plus invisible, qui va être le handicap, la déficience intellectuelle. Bien que, on a encore l'image du trisomique, hein, même si effectivement l'évolution de la médecine et tous les tests, les dépistages qu'il y a ont fait qu'effectivement cette image-là est en train un peu de s'estomper. Mais le handicap mental reste quand même assez présent. Hein. Ça va être toutes les personnes qui vont avoir effectivement un peu des difficultés à s'inscrire dans le parcours scolaire ordinaire ou dans les capacités d'abstraction que on va dire l'école peut nécessiter d'avoir à certains moments. Et puis après, on a le handicap psychique, où là, on va être effectivement plus un peu sur le champ de la psychiatrie. Et pour le coup, on va avoir affaire à des personnes qui vous ressemblent, qui nous ressemblent, qui me ressemblent, et sur lesquelles on ne va pas sentir effectivement qu'il y a un handicap derrière. En fait, une difficulté soit à comprendre, soit à lire, soit à raisonner, ou une difficulté à rentrer en relation avec les autres. Voilà. Et donc, ça va être un handicap qui va être difficilement appréhendable et compréhensible parce que, en gros, si je prends même l'autisme, vous allez avoir un enfant qui va faire une crise dans un magasin. Voilà. Sa maman va essayer de le gérer, mais cette crise peut être due à un problème, on va dire un stimuli sensoriel ou à effectivement une difficulté à gérer, voilà, on va dire des ressentis, des émotions. Mais on va dire la personne qui va être dans le rayon qui va constater ça, va plutôt peut-être mettre ça sur un problème d'éducation. Une maman qui ne sait pas gérer ou un papa qui ne sait pas gérer, parce que ça peut être aussi un papa, qui ne sait pas gérer son enfant. Alors voilà, et sans, parce que l'autisme n'est pas forcément marqué sur l'enfant tout de suite, ou on ne le voit pas. Donc il y a un handicap invisible, et c'est souvent celui-là qui est le plus difficile à percevoir ou à comprendre, et qui nécessite le plus de pédagogie.
Vous nous avez fait une belle introduction sur l'appréhension du handicap, et voilà, on parlait d'handicap visible, invisible, et essayer de comprendre en fait toutes ces situations-là. Depuis quand vous travaillez dans ce milieu? Parlez-moi un petit peu de votre parcours. Est-ce que vous avez toujours travaillé dans une structure comme la Belle Ouvrage?
Alors, moi, j'ai toujours côtoyé un peu le handicap, y compris quand j'étais un peu jeune. Ma mère était assistante maternelle et recevait chez elle un enfant trisomique. Alors, c'est peut-être pas ça qui a entraîné ma vocation. Après, moi, j'ai fait des études de psychomotricien et je suis arrivé dans le champ du handicap en 99, 1999. Donc, on pourrait dire le siècle dernier même, maintenant.
Oui, oui.
Ça ne me rajeunit pas, mais je vous rassure, je suis encore jeune. voilà, donc après, de là, moi, j'ai fait mon parcours, effectivement, secteur enfant, IME, et puis après, voilà.
IME, vous parlez…
Alors, Institut avec... médico-éducatif, effectivement, on a beaucoup d'acronymes, donc
oui,
il ne faut pas hésiter à me
fait,
reprendre.
Oui.
Voilà, IME, secteur enfant, et puis après, bon, voilà, j'ai pris des fonctions de responsabilité. Depuis 2010, je suis arrivé à la direction de l'association de la Belle Ouvrage, donc à Laval. Et entre-temps, je me suis formé sur tout ce qui va être le management, la direction. Donc, un peu, voilà mon parcours.
Présentez-nous la Belle Ouvrage. Qui a été à l'origine de l'association? Et puis, décrivez-nous un petit peu les spécificités de... Parce que c'est un ESAT, c'est un établissement à service d'aide au travail.
Par le travail, oui.
Par le travail. Voilà. Parlez-nous un petit peu de cette structure et déjà pour répondre à quel besoin, enfin, ça a été créé par qui et comment a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et là, évolué.
Dans le secteur, il y a un peu deux tendances. Il y a deux types d'associations. On va dire les associations qui ont été créées avant-guerre, avant les années 1960, qui sont plutôt souvent d'origine congrégationniste, hein, c'est-à-dire que c'est toute l'histoire effectivement des dispensaires, des ouvroirs, enfin bah, des structures effectivement, alors qui étaient plutôt caritatives, religieuses, hein, qui prenaient effectivement en charge les personnes vulnérables ou malades ou en souffrance, et qui, à un moment donné, voilà, sont passés en statut associatif dans les années 60. Je dis ça parce que l'autre tendance, ça a été la tendance après-guerre, où là, on a plus un mouvement parental qui est arrivé, style les papillons blancs, les adapuyés maintenant, qui est arrivé, et qui ont pris après le relais de cette œuvre de charité, on va dire. Hein? Voilà, donc la Belle Ouvrage, elle est plutôt est issue effectivement d'un ouvroir, fin 18e, 1890, où on accueillait des sœurs des muettes, et ça a été mis en place par les sœurs de la charité de Notre-Dame-des-Landes. Et on est passé statut associatif en 1960, parce que là, toutes les associations se sont créées dans le secteur du handicap. Donc, association loi 1901, et donc on a trois types d'activités, trois accompagnements, on va dire, de la personne en situation de handicap adulte. Cela aussi, dans le champ du handicap, on a deux secteurs. On a le secteur enfant, on va dire, alors 0-20 ans, on pourrait même dire 0-6 et après 6-20. Parce que, voilà. Et après, on a le secteur adulte où on va être sur 20-60 ans. Puis après 60 ans, on passe sur le secteur personnes âgées. Voilà, donc on est sur le secteur adulte et on va leur proposer trois accompagnements. Un accompagnement par le travail, donc un ESAT, anciennement les CAT, maintenant les établissements et services d'aide par le travail, où là on aura trois supports. Hein, c'est-à-dire que ça va être un support couture, blanchisserie et de la sous-traitance. Je parle de support parce que notre vocation première, c'est de travailler le projet professionnel de la personne, travailler l'acquisition de compétences, le rapport au travail, la posture de professionnel, de façon à pouvoir éventuellement les inclure dans dans le milieu ordinaire. Voilà, donc c'est notre premier accompagnement. Le deuxième accompagnement, c'est de l'hébergement. On va travailler plus sur le projet social, le projet de vie. Dans l'hébergement, on va être sur ce qu'on appelle, nous, du foyer de vie. Donc, des personnes qui, pour le coup, n'ont pas de projet professionnel, mais ça va être un accompagnement, effectivement, autour de d'activités éducatives, d'activités effectivement sociales. Après, on a le foyer d'hébergement, où là, on va être sur un accompagnement collectif où le but est de travailler le projet social, mais en vue de pouvoir les permettre d'accéder à des logements de droit commun. Mais en parallèle, ces personnes ont un projet professionnel, donc sont souvent à l'ESAT, un foyer d'hébergement à l'ESAT. Et après, on a ce qu'on appelle les logements accompagnés, donc des personnes qui n'ont plus forcément besoin un peu de ces dimensions collectives et vont commencer à plutôt avoir des logements sur l'extérieur, dans la cité. Et là, ça va être de travailler plus par intervention ponctuelle pour les accompagner sur voilà, tout ce qui va être leur autonomie, l'insertion, voilà, l'aide à remplir les papiers, l'aide à confectionner les repas. Enfin, donc ça, c'est notre deuxième offre, l'hébergement. Et la troisième, c'est de l'accueil à la journée, où là, on va être sur des personnes qui vont soit être à temps partiel sur le travail et qui ont besoin de lien social, d'activités éducatives à côté, donc on les accueillera la journée, soit des personnes qui vont rester chez leurs parents ou rester effectivement dans leur milieu de vie en termes d'habitation et vont venir à la journée faire des activités éducatives pour faire du lien social. Voilà un peu les trois supports que l'on a, les trois actifs d'accompagnement qu'on propose sur du handicap mental et du handicap psychique. Alors on commence.
Super total, combien de personnes vous accompagnez? Enfin, que ce soit les personnes qui travaillent, les personnes qui sont accueillies le jour et les personnes qui sont en foyer, enfin, en hébergement.
Alors, sur l'ensemble de l'association, on accompagne 100 personnes.
Comment elles arrivent chez vous? Est-ce qu'on peut parler des prescripteurs?
Bien sûr. On arrive effectivement dans le secteur du handicap, dans nos institutions, mais même sur les services style SAVS, les services à domicile, les services. On arrive toujours par une prescription, une notification, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, qui vient de la MDA, la Maison départementale de l'autonomie, les anciennes MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, qui ont fusionné avec le secteur personnes âgées pour nommer les Maisons départementales de l'autonomie. Donc, qui vont gérer un peu toute la solidarité au niveau du conseil départemental. Donc, il y a une CDA, une commission qui va ouvrir les droits au handicap, mais ça va aller aussi bien de la RQTH, donc la reconnaissance qualité travailleur handicapé. Une personne qui, dans une entreprise, a une perte de motricité et veut faire reconnaître, par exemple, ça en handicap, va passer par cette commission et jusqu'à des personnes qui vont effectivement être orientées en structure comme les nôtres. Ou en service à domicile.
Parlons un petit peu du côté un peu commercial. les supports d'activité que vous développez, combien de personnes il y a dans ce volet-là, dans ces trois types d'activités? Et ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tout leur parcours professionnel, ils le font chez vous, ou il y a à un moment donné changement de je sais pas, une évolution professionnelle, on peut parler de ça aussi, j'imagine, où ces personnes-là décident de changer peut-être de structure parce qu'ils ont envie de découvrir autre type d'activité. Enfin, je suis vraiment novice, je découvre. Non, mais par rapport au, par rapport au type d'activité, du fait que ces personnes-là, j'imagine qu'elles sont accompagnées pendant la journée, il y a des personnes qui les encadrent par rapport aux gestes, etc. Est-ce qu'elles vont faire ça toute leur vie ou à un moment donné, il y a des évolutions, vont décider, enfin, devoir changer de structure?
Alors, là, c'est plus sur la partie ESA de travail. Hein.
Oui.
Sur la partie ESA, donc, les personnes arrivent effectivement avec cette notification. Alors, il faut savoir que cette notification, elle n'est pas à vie, elle est renouvelable. Elle est pour une durée déterminée. Hein, donc, elle va être, la commission peut statuer pour un renouvellement tous les 2 ans, 5 ans. Voilà, donc, tous les, on va dire, aux dates de renouvellement, il faudra refaire un dossier pour que la commission se repositionne ou pas sur une continuité dans nos services, en ESAT ou pas. Après, la personne, l'ESAT, il a, on va dire, c'est une structure à double visage. La mission principale, c'est de travailler sur le projet professionnel. Donc, on arrive en ESAT avec une capacité de travail égale à un tiers d'un travailleur ordinaire. Généralement, c'est ce qui va un peu orienter la commission pour aller sur un ESAT. Et le but, c'est de travailler son projet professionnel et donc d'aller jusqu'à l'inclusion dans le milieu ordinaire dans une entreprise. Donc, ça va être l'acquisition des compétences, comme je disais, travailler sur le savoir-être. À côté de ça, l'ESAT a aussi effectivement cette contrainte, là pour le coup plutôt économique, qu'une partie de son fonctionnement est créée par sa production propre. Et donc, il faut effectivement à un moment donné produire. Et il faut effectivement, là pour le coup, avoir plus une offre commerciale, hein, et des activités commerciales que l'on rémunère avec nos clients. Donc, on a effectivement cette double contrainte, on va dire un peu économique, mais aussi sociale, où le but premier est et quand même, effectivement, de permettre aux personnes de pouvoir aller sur le milieu ordinaire. Après, on peut, nous, par contre, entre ESAT, avoir des changements. C'est-à-dire qu'il y a 10 ESAT sur la Mayenne. Chacun a un peu ses spécificités. On a quand même plus ou moins tous de la sous-traitance, mais un peu différente selon les secteurs, entre la sous-traitance automobile ou la sous-traitance, on va dire, pour des papeteries, des imprimeries. On va avoir de la couture, de la blanchisserie pour nous, mais on va avoir aussi de l'or. Horticulture, floriculture, on va avoir effectivement maraîchage, on va avoir de la menuiserie, on va avoir de la ferronnerie. Donc, voilà. Entre ESAT, il y a possibilité pour les personnes de pouvoir changer de façon, on va dire, à ce qu'elle n'ait pas un parcours linéaire. Le parcours linéaire était il y a quelques années. Maintenant, on est plus effectivement dans ce parcours qui va s'adapter aux capacités, aux besoins de la personne.
Vous parliez des clients. Quels sont vos clients? Qui vient vers vous pour demander des services? Est-ce que ce sont des individuels, des collectivités, des entreprises et...
Alors, nos clients, ils sont un peu effectivement éparses selon les activités qu'on a. Sur la couture, on va avoir une partie de clients particuliers avec notre magasin. Donc, tout à chacun pourrait venir faire des retouches, des réparations, voire de la confection. Donc, ça, c'est notre magasin historique. Et on a aussi maintenant une offre de couture industrielle qui est en train un peu de se développer, parce qu'il y a de la demande. Donc, ça va être là, pour le coup, plus des entreprises. Après, sur la blanchisserie, on va être sur des... Là aussi, le particulier va pouvoir venir, parce que donc, on fait pressing. Mais on va avoir aussi, pour le coup, des EHPAD, donc des établissements pour personnes âgées, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Voilà, on va avoir des foyers et on va avoir aussi des entreprises qui nous font travailler pour leurs vêtements professionnels. Et sur la sous-traitance, on va être essentiellement sur ce qu'on appelle du B2B, c'est-à-dire des industriels, des entreprises qui, à un moment donné, ont besoin d'externaliser ou, parce que pas mécanisable, de pouvoir avoir une action plutôt manuelle sur leur chaîne de process. Donc là, on va être vraiment sur les entreprises, les industries.
Je vous propose de faire une petite pause musicale et puis on revient pour la deuxième partie pour parler des projets innovants, partenariats. Et c'est ma collègue Annelise qui va pouvoir échanger avec vous. À tout de suite. Thank you.
into the room with confidence, huh? All of a sudden there's an audience. And what the meant, the intention has you nervous. Uh-oh. You switch the point of focus on purpose. Within the room on another man denoted. Nah. But he doesn't have your shine and you know this.
True.
So what's often on your mind is the knowledge you are dope. But you cannot be destructively explosive.
Boom. And you're blowing up the spot.
Spot.
Get it open and you're thinking you're hot.
You're hot.
Ladies, man, do they love you a lot?
A lot.
Head big, it's about to go pop. Really, you're joking, everybody knows. You hide behind your jewels and clothes.
Yes,
if you wanna, you should really put on
what?
Humility and intellect, you equal to bomb.
We
work it out.
Bomb,
we be
TNT chlorine free,
B-O-M-B, that's right,
true shine with the inner light,
and that's the bomb,
do what you feel to feel,
cause that's the natural,
and it's the real, it's real,
yeah,
keep it factual, and let the good times spill,
represent yourself and do it for real, cause it's the bomb,
you work hard to hide the fact that you are potent,
T-H-E-B-O-M-B,
but first impressions have been made and it was noted, a leaderless within the mix and you've been voted
T-H-E-B-O-M-B,
favorite of the audience whether you know it. So you better show it.
Watch it, get it, throw it, get it. T-H-E-B-O-M-B.
Rendez-vous de la PES.
Nous revenons après cette petite pause donc avec M. Stéphane Mattei, directeur de Bel Ouvrage. Moi, je voulais revenir vers vous, M. Mattei, en fait, donc plus en lien largement en fait, avec le secteur du travail adapté, protégé, parce que c'est vrai qu'on retrouve au sein de ce secteur, vous proposez aux entreprises des métiers dans des filières très, très diverses, et on va retrouver aussi... les métiers de demain, si on veut, dans vos établissements, en lien par exemple avec l'économie circulaire, avec l'environnement, l'écologie. Je crois même, par exemple, que vous avez un partenariat avec Robida à Port-Briet qui propose, qui fabrique des ruches. Par le personnel de l'ESAT. Je crois même qu'ils fabriquent il y a presque 5000 ruches par an qui sortent de l'établissement. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de partenariats de ce type avec des établissements mayennais.
Alors, entre ESAT, on travaille beaucoup ensemble. Enfin, on travaille beaucoup ensemble. Chaque ESAT a sa spécificité. Par contre, on se connaît tous. Hein. La Mayenne est un petit département. Et en plus, on a une association de directeurs qui s'appelle TIM, qui a toujours un peu fédéré effectivement les directeurs, mais plutôt d'établissements issus du handicap. Et même Tim, qui voulait dire normalement travail et emploi adapté en Mayenne, a été il y a quelques années une initiative des directeurs pour carrément mutualiser un service commercial, un service commercial. Voilà, entre-temps, l'association a changé un peu, évolué. Donc, entre directeurs, on se connaît tous. Donc, oui, quand on peut travailler ensemble, on essaie de favoriser ce travail-là. Et effectivement, après, certains ESAT ont des spécificités. On a vous parlé de Robida, mon collègue Emmanuel Gerbois, qui effectivement a ce marché de niche, qui est issu de son atelier menuiserie et qui effectivement est très connu même sur un plan européen. au niveau des ruches. Voilà. Mais oui, quand on peut, voilà, on essaie effectivement de travailler ensemble et en même, on a besoin de toute façon à un moment donné de mutualiser nos forces. Pour ça aussi, pour pouvoir répondre à certains marchés qui avant étaient très locaux, maintenant effectivement, le contexte change, le contexte économique change, donc il faut qu'on s'adapte. Maintenant, il y a des appels d'offres nationales et donc c'est vrai que même moi, à ma taille, je ne pourrais pas répondre à un appel d'offres national. Par contre, il faudrait effectivement qu'on puisse, avec mes collègues, le faire. Ça serait possible. Donc oui, travailler en partenariat a toujours été dans notre philosophie au niveau des directeurs des AT.
OK. Et puis, plus largement, c'est vrai que je voulais un petit peu rebondir sur cette partie environnement puis, qui commence à être de plus en plus présente dans les ESAT, dans les ESA. Je peux peut-être vous parler de quelques initiatives en Mayenne et puis ailleurs, parce qu'il y a pas mal de choses qui se font. Et puis, ça peut être, pourquoi pas, avoir pour des projets futurs. Vous connaissez tous, par exemple, en Mayenne, les ateliers, donc Men Atelier, donc situé à Goron. Men Atelier, c'est une EA, donc entreprise adaptée. Ils emploient principalement des personnes en difficulté avec le monde du travail, également personnes en situation de handicap physique, mental, problèmes psychiatriques. Pour la petite histoire, en 2017, la directrice rencontre un maraîcher bio et ils ont cette idée de partenariat, de monter ensemble une ferme plutôt biologique, donc la ferme de la Grille située à Goron. Donc ça permet aux personnes d'acquérir de nouvelles compétences et ça c'est primordial avec une formation en maraîchage, donc serre, verger. Mais ils réfléchissent également, parce que c'est là où on peut voir l'économie circulaire qui s'inscrit bien sur toutes ces activités, ils réfléchissent sur les pertes éventuelles sur la production, enfin même quasiment obligatoire pour une activité de maraîchage. Et ils vont créer le restaurant Mamijotte situé à Laval, qui propose des plats et même une conserverie à partir de légumes invendables. Donc là, on peut voir un bel exemple de lien entre structure adaptée et économie circulaire. Et puis, donc il y a ces deux initiatives en Mayenne, les ruches, que je trouvais très intéressantes, et Men Atelier. On peut retrouver aussi d'autres liens, on va dire, sur un plan régional. Je voulais vous parler, par exemple, surtout de Soli Food West. C'est vraiment là, entre croisement de notions, économie circulaire, handi solidaire, c'est une initiative super intéressante qui est née d'un double constat. D'un côté, le taux de chômage des personnes en situation de handicap qui était deux fois plus élevé quand même que la moyenne nationale. Et puis, quelques 10 millions de tonnes de nourriture qui partaient directement à la poubelle chaque année en France. Donc, pour lutter à la fois contre cette exclusion professionnelle et qui touche les personnes en situation de handicap et puis pour lutter contre le gaspillage alimentaire, cette association Handicap Travail Solidarité, qui est basée à Saint-Herblain, c'est pas très loin de chez nous, a décidé d'agir. Elle a imaginé deux dispositifs de valorisation d'un vendu alimentaire en circuit court, mobilisant des personnes accueillies en ESAT ou en EA. Donc, par exemple, dans le cadre de Solipain, les invendus de pain sont transformés en cookies. Il y a ainsi deux expérimentations qui ont été menées en 2018. Et puis, ils fabriquent également des biscuits qui sont vendus localement dans des magasins autour des ateliers de production, hein, ou alors servis dans des cantines nantaises. Et ils ont également donc Solifruits qui vise à transformer des invendus de fruits et légumes en compote, confiture, soupe. Voilà, c'est des initiatives régionales. Alors là, en plus, c'est dans le cadre du programme LIFE, un programme de financement LIFE, donc qui a été institué par la Commission européenne. Donc, il y a beaucoup d'expérimentations de ce type qui commencent à voir le jour. L'Université d'Angers, d'ailleurs, participe à cette thèse. Et en fait, c'est de proposer, enfin, étudier comment proposer des projets similaires un petit peu partout en France, dans des villes également plus modestes. Et pourquoi pas, d'ailleurs, aussi en Europe. Je voulais également vous parler juste rapidement d'un autre lien plus historique entre l'économie circulaire et le secteur du travail adapté. C'est le tri des D3E. Alors, les D3E, c'est les déchets d'équipements électriques et électroniques. En fait, en 2017, le réseau GESAT a signé un partenariat avec Ecologic. Donc, Ecologic, c'est l'éco-organisme agréé par l'État sur la partie de ces déchets d'équipements électriques, électroniques. En gros, c'est les ordinateurs, imprimantes, téléphones, serveurs. Et cet accord cadre prévoit d'accompagner ces structures dans leur mise en conformité. Voilà. Et puis au-delà de cette mise en conformité, en fait, ça s'inscrit dans une démarche volontaire pour promouvoir le geste de tri des entreprises françaises. Ils proposent ainsi d'utiliser la force et le maillage national des ESAT et EA pour développer localement avec les entités qui le souhaitent un réseau de points de dépose gratuit des 3E pour les entreprises qui cherchent à se défaire de leurs équipements électriques. Donc voilà, c'est quelques exemples de liens entre structures adaptées, ESAT, EA et environnement d'un point de vue assez large. N'oubliez pas qu'on peut retrouver également l'environnement au sein même des structures. Hein, certaines pratiques essayent de sensibiliser les résidents sur la question de gaspillage alimentaire ou même dans l'environnement immédiat des structures, on peut trouver des jardins où on va essayer de faire attention à la biodiversité, par exemple. Mais bon, c'est vrai que sur cette partie des métiers de demain, en fait, il y a beaucoup de liens de partenariat entre les structures liées au secteur du travail protégé et les filières environnementales. On peut espérer que ça va continuer à se développer dans les prochaines années avec des compétences acquises pour les personnes en situation de handicap. Et puis, bien entendu, ça fait du bien à la planète. Donc, c'est beaucoup d'initiatives sympas. Oui. Vous, au niveau des projets que vous développez, alors ça peut-être pas en lien avec l'environnement, bien entendu, mais il y a peut-être pas mal d'autres projets à l'heure actuelle qui sont dans les tuyaux pour votre établissement.
Alors, ce que vous dites, je merci beaucoup pour la présentation que vous avez faite, effectivement. Je pense que les ESAT et les E1 ont toujours eu effectivement le souci d'essayer d'adapter les compétences de nos travailleurs avec un monde très changeant qui est le monde de l'entrepreneuriat et qui évolue et qui innove. Donc, effectivement, nous, indirectement, on est soumis à ça. Étant dans le champ, effectivement, de l'économie sociale, la question, effectivement, la fibre sociale et solidaire effectivement est assez présente. Donc, voilà. Développer les partenariats et développer le travail en réseau a toujours été un point de vigilance. Nous concernant, on est en train, nous, plutôt d'essayer de travailler sur toute une production avec des nouveaux bâtiments et d'essayer, effectivement, pour le coup, de trouver aussi des nouvelles activités. Hein, parce que je prends, sur exemple, la sous-traitance industrielle. On voit, effectivement, que c'est un peu en perte de vitesse globalement au niveau national et donc il faut qu'on arrive à se renouveler sur des activités nouvelles et donc avec des montées en compétences. D'ailleurs, le secteur du handicap a créé Différents et Compétents, qui est une association qui met en avant la reconnaissance des acquis de l'expérience pour nos travailleurs. Donc voilà, cette notion de compétence a toujours été au cœur de notre action. D'accord. Voilà, donc des projets... Oui, des projets surtout pour arriver effectivement à garder un support d'activité pour nos travailleurs dans un monde qui se complexifie et qui bouge.
Tout à fait. Voilà.
Et même, je penserai sur l'atelier blanchisserie, ça va être effectivement toujours de trouver ce bon équilibre entre le prix de revient que va nous demander le client, le prix de revient qu'on va avoir, le prix que va nous demander le client sur sa prestation qui, mine de rien, est toujours un peu en filigrane, hein. C'est toujours une donnée un peu économique quand on discute. Voilà. Et puis, les compétences, donc la mécanisation de nos ateliers, les nouvelles machines que l'on peut faire entrer, l'accessibilité qu'elles peuvent avoir pour nos personnes, enfin voilà. Donc, on est toujours dans cette recherche.
J'ai vu que vous travailliez également avec le textile, avec un petit peu de personnalisation de sacs, je crois. Enfin, il y avait des figurines peut-être. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez m'en dire un petit peu plus. J'ai vu sur votre page Facebook, mais.
Alors, on soutient actuellement une initiative qui est une orthophoniste qui met en place une pochette de communication pour les enfants autistes. Donc, voilà, donc on est en train de travailler avec elle. Sur plutôt la confection et la réalisation. Après, notre atelier couture a toujours un peu cette singularité de pouvoir travailler sur des projets un peu innovants et singuliers. On a produit pour nous-mêmes, pour mettre dans notre magasin.
C'est des très jolis objets en plus.
Voilà, on est en train de travailler aussi avec des personnes qui font des éponges renouvelables. enfin l'écologie, donc on confectionne pour elle et elle vend par Internet. Donc on a toujours été effectivement un peu soutien sur ces initiatives un peu de on va dire, de start-up, hein, si on peut appeler ça.
Ok, je vous remercie. Peut-être un petit point sur votre actualité. Je ne sais pas s'il y a des petits messages.
Bah, notre actualité, c'est les nouveaux bâtiments qu'on va avoir pour la culture et la blanchisserie, qui vont effectivement, à courant avril, arriver. Après, c'est vrai que c'est plus des actualités aussi un peu sectorielles. Effectivement, je parlais de cette mouvance de l'inclusion, qui est plutôt sur la partie hébergement, donc qui fait qu'effectivement, les lignes un peu bougent entre... effectivement, un équilibre à trouver entre, on va dire, des institutions qui étaient là, d'une prise en charge plutôt collective institutionnelle et l'inclusion, donc une dynamique plutôt d'emmener les personnes vers l'habitat ordinaire avec les bailleurs sociaux, tout ça. Et bon, ce qu'on remarque, c'est que voilà, on ne peut pas répondre, enfin, ces réponses-là ne correspondront jamais à tout le monde, donc il faut arriver à trouver un curseur. Effectivement, entre ces différents accompagnements qui se complètent tous les uns les autres. Voilà.
Okay.
Donc actuellement, on est effectivement beaucoup soumis aux politiques sociales, à ces mouvements qui voudraient effectivement que ce soit plutôt des mouvements de masse, mais c'est comment arriver à trouver cet équilibre pour mieux répondre aux besoins de la personne et à ce que l'on peut lui proposer. Voilà. Donc on est, comme l'économie, comme toute structure de l'ESS, soumis un peu à ces mouvances.
On va faire une pause musicale avant la dernière partie, et puis on revient pour parler un petit peu de l'actualité et puis d'autres projets à venir. À tout de suite.
Well, you couldn't be good if you've never been bad. You couldn't keep cool. If you've never gone mad, you couldn't be glum. If you've never been glad, and lemons give you lemonade. If you don't do the work, you'll never get paid. If you don't have the crowd, there's no parade. It may be trite, and I know it's cliched, but lemons give you lemonade. The glass is half full of sweet champagne. Some say it's half empty, what do they know? Why would you whine about the rain when you could lose yourself inside a rainbow? Without the climb, you don't get the view. Without the crime, you won't have a clue. There is no rhapsody without the blue. And lemons give you lemonade.
Revenu dans le studio pour la dernière partie de l'émission. Comment gérez-vous l'actualité? Voilà, il y a eu le confinement, il y a eu la reprise, un deuxième confinement. J'imagine, comme vous disiez tout à l'heure, toute structure de l'ESS, voilà, avec la mouvance, avec toute cette innovation et tout ce qu'il faut mettre en place pour continuer à développer et à proposer. Est-ce que vous avez été touché par par la COVID, disons-le clairement. Est-ce qu'il y a eu des projets qui ont été annulés, reportés? Enfin, en tout cas, comment la structure fait face aux actus?
Je pense qu'on est un peu comme tout le monde, on fait face du mieux qu'on peut face à la COVID. Bon, on a eu la chance quand même de pas avoir effectivement de soucis sanitaires par rapport à ce que les EHPAD ont pu connaître, hein, parce qu'eux ont vraiment été touchés sur un plan de vue sanitaire. Après, effectivement, c'était l'enjeu pour nous, hein, de ne pas avoir la COVID dans nos structures. Pour l'instant, c'est pas le cas, on verra après. J'espère qu'on continuera sur cette lancée. On va dire que ça a ralenti un peu tout. Ça a ralenti un peu tout. Voilà ce qu'on pourrait dire.
Est-ce que...
Après,
pardon, allez-y.
Je veux dire, après, l'enjeu pour nous était surtout sur la partie des AT, la reprise du travail pour les personnes. On pourrait casser cet isolement, cette solitude qui a été très difficilement... qui a été très mal vécu et très difficile sur le premier confinement. Donc, c'était surtout de reprendre l'activité pour elles, pour leur permettre de garder ce lien, qui est des fois le seul pour certains. Voilà. Et sur la partie hébergement, ça a été aussi de continuer à trouver cet équilibre entre un collectif et le fait que le collectif ne soit pas contaminé, et maintenir le lien social, la famille, les sorties, les activités. Voilà. On a mis en place toutes les préconisations et moult recommandations qu'on a pu avoir. Voilà. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien.
Du côté des institutions, des partenaires, vous avez eu des aides parce que vous êtes sur le modèle économique, le pourcentage, ce sont les supports d'activité qui vous permettent de développer la structure, vous avez aussi des aides. Est-ce que les institutions vous ont accompagné, vous ont suivi dans cette période-là?
Les institutions nous ont quand même soutenus et accompagnés. Mmh. Alors, le modèle économique, en fait, on a trois modes de financement principaux. Alors, sur la partie travail, il est double, ça va être les ARS. Pour la partie médico-sociale, les moniteurs d'atelier qu'on doit embaucher, l'accompagnement social que l'on doit faire, chargé de soutien. Et on a aussi après notre production propre qui vient financer le reste de l'ESAT. Voilà, donc on pourrait dire 60-40 à peu près.
Hein, c'est important, je pense, de montrer au grand public, en fait, les structures comme les vôtres vendent des services et des produits pour...
Bien sûr.
Participer au développement de la structure et développer des nouveaux projets. Il y a souvent cet a priori-là, comme quoi il y a beaucoup d'aide, mais oui. C'est important de mentionner qu'il y a vraiment un outil de production et que vous arrivez à...
Il y a un outil de production. Alors, selon les ESAT, ça peut différencier un peu. On doit faire, nous, pour être à l'équilibre sur notre partie production, on s'est fixé 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, il faut quand même les faire avec des personnes, comme je disais, qui sont égales à un tiers des travailleurs ordinaires, qui, effectivement, de par le handicap psychique, peut être absent du jour au lendemain ou partir de l'atelier parce qu'il y a un problème relationnel avec les autres. Enfin, voilà. Donc, voilà. Mais on a quand même, comme toute entreprise, on démarre à zéro et il faut qu'on ait fait notre chiffre d'affaires à la fin de l'année pour arriver à notre équilibre, même si, voilà. La vision étant l'équilibre, quand même, pour nous. Il n'y a pas de profit derrière, il n'y a pas de... On est vraiment sur le modèle associatif. Voilà. Et donc, l'autre financeur, c'est le conseil départemental sur la partie plutôt hébergement accueil de jour. Et les financeurs nous ont accompagnés soit par des... Voilà, on va dire, de la mise à disposition de matériel, gants, masques, gel hydroalcoolique, voilà. Il y a eu un soutien de leur part. Ils ont vraiment été sensibles à ne pas nous mettre en difficulté.
Bon, c'est important d'être soutenu et de permettre aussi à d'autres personnes, comme vous disiez, qui ont besoin de l'outil de travail, mais aussi d'autres accompagnements, de faire partie de la société, d'être dans le milieu ordinaire comme nous tous. On arrive à la fin de l'émission. Je souhaite vous proposer un petit exercice. On souhaite avoir votre ressenti par rapport à quelques concepts que j'ai extraits de notre échange, du domaine d'activité dans lequel vous travaillez. Le jeu, si je peux dire comme ça, c'est que moi, je vous donne un concept et vous donnez votre avis, votre ressenti personnel par rapport à ces mots-là. Et, bon, je vais commencer. Pour moi, le handicap, c'est...
Pour moi, le handicap, c'est une personne en situation de vulnérabilité qui a besoin effectivement qu'on l'accompagne, pour qu'elle puisse prendre pleinement sa place dans la société.
Vous m'avez avancé sur le mois prochain. Pour moi, accompagner, c'est...
Pour moi, accompagner, ça va être tenir compte effectivement des besoins de la personne sans faire de présupposés ou sans effectivement projeter sur elle nos propres désirs, nos propres visions. Donc ça va être de marcher avec elle, à côté d'elle, et pas devant elle ou derrière elle.
Pour moi, le travail, c'est...
Pour moi, le travail est un lieu, on va dire, d'épanouissement et de lien social important. Voilà, au-delà, effectivement, de l'aspect, si je prends la pyramide de Maslow, de cet aspect qui permet de répondre aux besoins fondamentaux de chacun, mais ça reste quand même un lieu important d'épanouissement personnel et de lien social.
Pour moi, être responsable d'une structure, c'est...
Pour moi, être responsable d'une structure, alors moi, j'aime beaucoup le principe de subsidiarité. Voilà, ça va être vraiment permettre à chacun de pouvoir, je parlais d'épanouissement, c'est ça, de s'épanouir dans son rôle et dans sa fonction, de pouvoir être responsable, effectivement, de son travail, de ses actes. Et c'est ça, c'est de permettre à mes collaborateurs de s'épanouir.
Et on va finir avec le dernier. L'économie sociale et solidaire, pour moi, c'est...
L'économie sociale et solidaire, eh ben, c'est un grand champ, comme je disais, de solidarité, de structures qui se sont mis au service de l'humain et de l'homme pour l'aider à avancer. Des personnes souvent en situation, effectivement, de précarité, de vulnérabilité, de fragilité. Voilà, et donc, c'est un magnifique champ, effectivement, d'initiatives solidaires, parce qu'il y a des très, très beaux parcours, il y a des très, très belles initiatives, comme Anne-Lise a pu l'exprimer à un moment donné, sur l'économie circulaire. Donc, oui, non, c'est un beau champ et un beau secteur d'innovation sociale. Voilà, et avec l'importance de travailler tous ensemble.
Bon, le message est attendu. Merci d'avoir partagé cette heure avec nous, de nous avoir fait découvrir votre structure, voilà, les belles personnes que vous accompagnez, de comprendre en fait ce que c'est le monde du handicap. Je vais juste présenter les deux prochaines dates. Le 5 février, l'APES organise un partenariat avec les canaux et le 253. Un webinaire sur les opportunités économiques que les JO 2024 apportent aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est entre 11h et midi. Si vous êtes intéressé, on vous invite d'aller sur le site de l'APES53.org pour vous inscrire. Vous aurez le lien de connexion. Et puis, c'est un créneau du 6 février au 24 avril. Après en paille, le collectif de quatre propose le festival Habiter là. L'objectif, c'est d'interroger une approche pluridisciplinaire, l'urbanisme et l'architecture en milieu rural. Le sujet cette année, c'est les lieux communs. Il y aura des conférences, des chantiers participatifs, des résidences. Voilà. L'objectif, c'est de réunir des acteurs, proposer des échanges pour faire avancer les territoires. Merci à vous tous de nous avoir écoutés.
Merci
de votre invitation.
Et puis, rendez-vous au mois de mars pour une nouvelle émission, Les Rendez-vous de la Peste. Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Les Rendez-vous de la Peste.
Tous les premiers mardis du mois à 19h.
L'émission qui traite de l'économie sociale et solidaire en Mayenne.
Rendez-vous de la Peste.